L'euro recule de 0,50%, il revient à 1,2997. La Fed a relevé hier ses taux directeurs d'un quart de point, comme prévu, et la BCE vient d'annoncer qu'elle laissait les siens inchangés à 2%. Alors, vous parliez de Carrefour, Claire, et puis, eh bien, le titre s'inscrit comme la plus forte hausse du CAC 40. Le marché apprécie, semble-t-il, le remaniement de la direction. Le titre gagne 2,66%. Rapidement, un petit mot du marché de l'or. Au premier fixing, l'once d'or est en repli d'1,80 à 419,80. Je vous rappelle le CAC 40, moins 0,22% à 3,943 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Merci beaucoup Antoine Verlin. Les courses à Vincennes avec l'arrivée du Quintet. Pour gagner, il fallait jouer le 8, le 7, le 2, le 11 et le 5. 8, 7, 2, 11 et 5. Sachez que le 10 était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, bien passé. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'origine d'un vieux malentendu entre la France et les États-Unis, De Gaulle et Roosevelt pendant la guerre. Roosevelt est fou, Charles de Gaulle. Le général de Gaulle est un fanatique et je crois qu'il a pratiquement tout du dictateur. Franklin Roosevelt. D'histoire. Que pensent les Américains des Français et les Français des Américains? On n'a pas attendu les rapports difficiles qu'entretiennent aujourd'hui George Bush et Jacques Chirac pour se poser la question. Elle se posait déjà il y a des années, lorsqu'en pleine guerre, le général de Gaulle et Franklin Roosevelt se sont affrontés pendant 5 ans dans un incroyable bras de fer. Le premier, pour que sa légitimité soit reconnue par les États-Unis, le second pour imposer sa volonté à la France pendant et après la guerre. Les deux hommes avaient pourtant en commun le même adversaire et le même objectif, la victoire sur l'Allemagne nazie. Mais à côté du président d'une des plus grandes puissances du monde, le chef en exil de la résistance française ne pesait pas bien lourd. Quelques jours après le plus grand désastre qu'ait jamais connu l'armée française, il n'y avait pas grand monde autour du général de Gaulle pour vouloir continuer comme lui le combat, croire en la victoire et prévoir l'entrée en guerre des États-Unis pour faire basculer le destin de la guerre. Charles de Gaulle à Londres, le 22 juin 1940.
Oui, nous avons subi une grande défaite. Mais il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
François Cassaudi, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le général de Gaulle à Londres le 22 juin 40. Il disait à peu près au fond la même chose que dans son appel du 18 juin, 4 jours plus tôt. La France n'a perdu qu'une bataille, elle n'a pas perdu la guerre et surtout, disait-il, on vient de l'entendre, elle peut compter à l'avenir sur les États-Unis qui, il faut le rappeler, étaient encore neutres et le resteront pendant un an et demi. Et cela, c'est vraiment assez visionnaire ce qu'il dit, alors que vraiment la France vient de subir un désastre absolument énorme, à tel point d'ailleurs que Roosevelt, que le président des États-Unis, lui, considérait que la France ne s'en relèverait jamais. Et c'est là, dites-vous dans un livre, De Gaulle-Roosevelt, Le duel au sommet, un livre qui vient d'être publié chez Perrin, c'est là ce qui est à l'origine de ce conflit absolument incroyable qu'il y a eu entre ces deux hommes, qui étaient pourtant des alliés, entre Roosevelt et De Gaulle. Pendant toute la durée de la guerre, De Gaulle croyait au redressement de la France, et Roosevelt, lui, croyait qu'au fond, elle n'existait plus.
Oui, c'est parfaitement exact. Du côté de Gaulle, il a quitté la France avec l'idée qu'il pourrait se réfugier en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il y avait Churchill, et qu'il pourrait compter sur les ressources des États-Unis, dont il savait qu'elles étaient immenses. D'un autre côté, Roosevelt, à la même époque, a été effectivement effaré par ce qu'il a vu et entendu dans la campagne de France, et il faut bien reconnaître qu'il avait de bonnes raisons, parce que à la fois, lui, Roosevelt, était francophone, il était francophile et comptait beaucoup sur l'armée française. Et quand il a vu ce désastre, quand on lui a rapporté que finalement Paul Reynaud manquait d'énergie et était harcelé
par l'armée française,
et que oui, et puis quand l'ambassadeur des États-Unis lui rapportait que Reynaud était harcelé par sa maîtresse, Madame Deporte, qui était défaitiste, et tout ça lui a paru tellement effarant et à la fois tellement dérisoire, qu'il a cessé de croire en la France.
Oui, mais aux États-Unis, il y a des Français qui sont en exil là-bas. Il y a Alexis Léger, qui est en fait plus connu sous le nom de sa jeune père, qui était secrétaire général du Quai d'Orsay, qui disait pique-pendre de Gaulle à l'entourage de Roosevelt. Il y avait également Jean Monnet. Il y avait aussi, dans l'entourage de Roosevelt, son secrétaire d'État, Sumner Wells. Il y avait également un amiral, l'amiral Lee, qui n'était pas n'importe qui, puisque c'est lui qui était le représentant, c'est-à-dire l'ambassadeur des États-Unis en France occupée, c'est-à-dire à Vichy, parce que pendant tout le début de la guerre, les États-Unis étant neutres, ils ne reconnaissaient pas le général de Gaulle, mais ils reconnaissaient le maréchal Pétain et son gouvernement.
Absolument, absolument. Et c'est d'autant plus curieux que de Gaulle a été traité de fasciste par l'administration américaine un nombre incalculable de fois, en particulier par le secrétaire d'État Cordell Hull, et alors que on était du dernier bien avec Vichy. Washington correspondait directement avec Vichy, qui lui était à la botte des Allemands. Enfin, c'était quand même étonnant.
Et à tel point d'ailleurs, vous citez aussi cet épisode étonnant, je crois que c'était en fin 41, de Gaulle, pour le compte de la France libre, s'empare de Saint-Pierre et Miquelon, qui étaient restés sous administration vichyste, et que fait Roosevelt? Au lieu de l'applaudir, il menace une opération militaire américaine sur Saint-Pierre et Miquelon, et de Gaulle a cette formule étonnante, on lui dit, mais si jamais les navires américains arrivent à Saint-Pierre et Miquelon et tirent, qu'est-ce qui va se passer? Et il dit, nous riposterons. C'est quand même extraordinaire, ces rapports à l'époque. Ça, personne n'en savait grand-chose, évidemment, c'était pas rendu public.
Oui, bien sûr, mais de Gaulle a dit à Eden, effectivement, ce que vous dites, mais il a ajouté, mais ne vous en faites pas, j'ai confiance dans les démocraties. C'est-à-dire qu'il se doutait bien que Roosevelt avait une opinion publique et un congrès à satisfaire et qu'il ne pourrait jamais aller jusqu'à tirer sur les Français libres ou FSC tirer dessus. Donc, de toute façon, ça ne se ferait pas.
En tout cas, Roosevelt préfère s'appuyer sur le régime de Vichy, sur Pétain, d'ailleurs, que Roosevelt admirait encore, lorsqu'en 42, après être entré en guerre, c'est-à-dire après la bataille de Pearl Harbor, eh bien, l'armée américaine débarquait en Afrique du Nord, française, le 8 novembre 42. Écoutez ce que ce jour-là, les Français pouvaient entendre à la radio, les paroles que leur adressait Roosevelt et la réaction du général de Gaulle.
Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord.
Vous allez entendre maintenant un message du président Roosevelt en personne.
Mes amis qui souffrent jour et nuit sous le joug accablant des nazis, nous arrivons parmi vous seulement pour écraser et pour anéantir vos ennemis. Croyez-nous bien, nous ne voulons vous faire aucun mal. Nous vous assurons qu'une fois que la menace de l'Allemagne et de l'Italie soit bien éloignée de vous, nous quitterons votre territoire immédiatement. Vive la France éternelle!
Nos alliés américains sont à la tête de cette entreprise. Chefs français, levez-vous! Aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. La France qui combat, vous en êtes dure. Ne vous souciez pas des noms, ni des formules. Une seule chose compte, le salut de la patrie.
Et c'était De Gaulle au lendemain d'un débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, dont il n'avait pas été tenu au courant, dont il a été maintenu écarté, alors qu'il s'agit d'un territoire français, de colonie française à l'époque. Et surtout, mais De Gaulle s'en moque, il dit aux Français, eh bien, rejoignez, il applaudit au fond ce débarquement anglo-américain, François Kersaudy. Et alors, il a une petite formule, je voudrais que vous nous l'expliquiez. On a entendu, hein, il dit, ne vous souciez pas des noms ni des formules. Alors ça veut dire quelque chose de très précis.
Oui, ça veut dire tout simplement que il consent momentanément à ce que les Américains fassent un petit peu le ménage sans trop se soucier de qui aura le pouvoir en définitive en Afrique du Nord. Simplement, à l'époque où il dit ça, il n'y a pas encore l'expédient d'Arlan.
Alors justement, après. Les noms ou les formules, c'est quoi? C'est que les Américains, ne voulant pas faire appel au général de Gaulle sur un territoire français qu'ils viennent de libérer, font d'abord appel à d'autres noms que lui, c'est ça qu'il voulait dire.
Il pensait
et d'abord, oui, il pensait bon. Et puis surtout, il trouve sur place qui? L'amiral d'Arlan, l'ancien chef de gouvernement de Pétain, et c'est sûr, qui est par hasard, dit-on, à Alger, parce que son fils y est malade, et c'est sûr d'Arlan, hein, un pétainiste convaincu et même un collaborationniste, que s'appuient les Américains après leur débarquement en Afrique du Nord.
Absolument. Et ça, à partir du moment où De Gaulle a su ça, il n'était plus du tout prêt au compromis.
Oui. Alors d'Arlan est assassiné peu de temps après, en décembre 1942, et là, les Américains vont s'appuyer sur un autre homme, qui n'est pas gaulliste, qui est pétainiste, le général Giraud, qui devient commandant en chef civil et militaire, et l'adjoint en Afrique du Nord du commandant en chef américain, le général Eisenhower.
General Eisenhower, commander-in-chief North African Theater of War, visits the front.
Le général Eisenhower visite le front d'Afrique du Nord.
General Giraud, High Commissioner for French North Africa, speaks to French units behind the lines.
Le général Giraud, haut commissaire, s'adresse aux unités françaises. Ses exploits militaires l'ont rendu cher aux Français qui luttent pour la libération de leur pays.
Americans will always say, we like it here, stand up and cheer, hip, 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 hooray. Every girl and boy can find romance beneath star-spangled skies.
Et vous entendez Nat King Cole en 1942, Hip 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 Hooray, une chanson américaine qui convenait à cette époque du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Et on a entendu dans l'archive qui précédait le général Giraud, qui devient donc commandant en chef civil et militaire français en Afrique du Nord, mais pas De Gaulle. Giraud, en fait, était très commode pour Roosevelt, dites-vous, parce que c'était un peu un homme de paille.
Oui, absolument. C'était un homme qui était à la fois férocement anti-allemand, modérément maréchaliste, qui n'était pas suspect d'intellectualisme, qui était anti-anglais, ce qui plaisait beaucoup aux Américains, et qui en plus n'aimait pas le général de Gaulle. Donc il avait vraiment tout pour plaire. Le seul problème, c'est que ça n'était pas un cerveau politique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors cela dit, après donc avoir s'être appuyé sur Pétain, puis sur Darlan, puis sur Giraud, finalement, Roosevelt s'efforce à tout prix de continuer à écarter De Gaulle. Il y a même cette formule, je ne sais pas qu'en faire, on devrait l'envoyer gouverneur à Madagascar, hein, à ce moment-là. Mais il finit par céder, d'abord parce que De Gaulle réussit à rassembler derrière lui toute la résistance française, hein, grâce à Jean Moulin, donc il pèse maintenant beaucoup plus lourd. Et puis, il finit par accepter, Roosevelt finit par accepter une rencontre entre De Gaulle et Giraud, à Anfa, au Maroc. Et là, les deux hommes vont s'entendre sur la création d'une espèce d'embryon de gouvernement provisoire, le Comité français de libération nationale, co-présidé par De Gaulle et par Giraud. Non,
c'est-à-dire que à Anfa, ça ne débouche sur rien. Ils sont simplement d'accord pour discuter.
Il y a la poignée de main.
C'est seulement la poignée de main
qui
suffisait à Roosevelt, c'est pour montrer qu'ils s'étaient réconciliés. Mais il faudra encore 6 mois de tractation pour faire ce fameux Comité français de libération nationale, dont François Coulet a dit que c'était un comité à deux têtes dont une seule était pensante, ce qui n'était pas très gentil
pour Giraud,
évidemment. Mais ça prendra beaucoup de temps et il faudra encore du temps en 43 jusqu'à la fin de 43 pratiquement pour pousser Giraud en douceur vers la sortie.
Effectivement, De Gaulle va se retrouver tout seul à la tête de ce Comité français de libération nationale, mais encore tenu à l'écart lorsqu'en 1944, les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin 1944.
clear and daylight as 6 a.m. approaches on June 6, 1944. And now batteries are firing from the beach, flashes of yellow, and the
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Derrière le nuage si lourd de notre sombre, voici que reparaît le soleil de notre grandeur.
Et c'était le général de Gaulle, après le débarquement en Normandie, il s'en réjouit, bien sûr, François Kersaudy. Mais alors, ce que l'on ne sait pas bien, ce qu'on ne savait pas bien à l'époque, ce que, dont on a très peu parlé, d'ailleurs, lors du 60e anniversaire du débarquement en Normandie, c'est qu'à l'époque, il y a encore un énorme contentieux entre de Gaulle et Roosevelt à propos du statut de la France au fur et à mesure qu'elle allait être libérée par les Alliés. Et il y avait, elle devait être en fait administrée par des Américains, hein, qui remplaceraient les préfets vichistes, etc., qui serait à côté d'eux, et c'est une institution qu'on appelait l'AMGOT. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est, François Kersaudy?
Oui, l'AMGOT, c'est l'administration militaire des territoires occupés. Il faut dire que c'est des territoires occupés. Pendant toute la période de 41, pratiquement à 44, on a bien vu, y compris en Afrique du Nord, que Roosevelt ne faisait pas la différence entre une occupation et une libération. Et donc, il avait prévu la même formule pour la France que pour l'Italie, pays ennemi, et, c'est-à-dire une occupation militaire. Dans cette occupation militaire, on installerait des Américains qui auraient été formés pour être préfets en France. Ils avaient été formés aux États-Unis, à Charlottesville, en 60 jours. On les avait d'ailleurs baptisés les merveilles des 60 jours, puisqu'en 60 jours, ils devaient à la fois apprendre le français et l'art de devenir des préfets en France.
Avec un pouvoir aussi important pour les États-Unis, c'était les Américains qui devaient émettre la monnaie en circulation en France après le débarquement.
Qui avait même émis la monnaie. Ouais. La monnaie était déjà émise, et des timbres aussi d'ailleurs, pour que l'administration soit tout à fait américaine en France, en attendant que le peuple puisse se prononcer démocratiquement, etc., ce qui aurait pris un certain temps. Et donc, vous auriez eu effectivement une occupation pure et dure en France, si le général de Gaulle n'avait pas été là.
Et de Gaulle, qui entre-temps a transformé son CFLN en gouvernement provisoire français, mais que ne reconnaît pas Roosevelt, qui va vraiment traîner pour reconnaître ce gouvernement provisoire, et qui quand même se heurte à une opposition un peu inattendue. Car la politique de Roosevelt, en fait, elle est désapprouvée par l'opinion publique en France, bien sûr, en Angleterre et même aux États-Unis, où on dit mais quand même il charrie notre président de soutenir d'abord Darlan, d'être d'accord avec Pétain et de faire tout pour barrer la route à De Gaulle.
Oui, et en plus l'entourage de Roosevelt petit à petit devient gaulliste. Des gens comme Sumner Wells, comme Cordell, même le Cordell Hull, qui était férocement, qui était atteint de gaullophobie aiguë depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, et il était devenu pratiquement gaulliste. Le secrétaire à la guerre Stimson, pareil. Harry Hopkins, Le conseiller de Roosevelt, est devenu gaulliste également. Donc,
c'est Roosevelt était tout seul à s'opposer.
Pratiquement tout seul. Oui, il y avait encore l'amiral Leahy, l'expert des questions françaises qui parlait pas français, qui était encore assez anti-gaulliste. Mais ils étaient les deux seuls. C'est le dernier carré, si on peut dire.
Alors, la popularité du général de Gaulle aux États-Unis, on peut la mesurer quand il s'est rendu en visite officielle le 6 juillet 1944. Écoutez l'accueil que lui réservaient les New Yorkais et leur maire, Fiorello LaGuardia.
General Charles de Gaulle, I'm happy and proud to welcome you to the city of New York.
General de Gaulle, bienvenue à New York.
You are the symbol of fighting France.
Vous le symbole du combat pour une France libre.
Vive la France! Vive la France! Vive la France!
I thank you very much, Mr. Mayor, on your oath.
Merci à tous pour votre accueil. Bonne chance à vous qui luttez pour la démocratie.
Ah, l'accent anglais du général de Gaulle à New York, ça vous fait beaucoup sourire, François Kersaudy.
Oui, absolument.
Mais c'est
oui,
beau ce qu'on vient d'entendre.
Oui, oui, mais le général avait un anglais qui n'était compris pratiquement que par les Français, en fait.
Alors ça, c'était, il était en visite à New York, mais il était surtout aux États-Unis pour rencontrer Roosevelt, qui avait fini par souhaiter le voir. Il faut rappeler quand même que compte tenu de l'opinion américaine pro-gaulliste et l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis, finalement Roosevelt traite chaleureusement à Washington de Gaulle d'un cher ami, etc. On a l'impression que ça se calme entre les deux hommes, mais ça c'est la perspective des élections américaines qui explique son comportement.
Absolument, absolument, et Roosevelt offre même au général de Gaulle son portrait dédicacé au général de Gaulle qui est mon ami, ce qui prouve que Roosevelt avait une conception très extensive de l'amitié.
Assez hypocrite, disons peut-être.
Tout à fait.
Mais c'est quand même assez extraordinaire que ce bras de fer, on a l'impression que c'est finalement de Gaulle, qui est au fond un peu David contre Goliath, quand on voit les rapports de force, c'est de Gaulle qui le remporte. C'est quoi? C'est dû à quoi? C'est une force de caractère?
C'est dû certainement à une force de caractère, mais c'est dû aussi au fait que de tous les côtés, il y avait quand même des amortisseurs. C'est-à-dire que si de Gaulle et Roosevelt s'étaient trouvés tout seuls face à face, la rupture aurait été extrêmement rapide, de même que celle avec Churchill d'ailleurs. Mais il se trouve que du côté français, du côté anglais et du côté américain, vous aviez des gens très dévoués qui ont accepté de prendre tous les coups de tous les côtés pour servir d'amortisseur et pour empêcher la rupture. C'est-à-dire que du côté français, vous aviez des gens comme Massigli, comme Viennot, comme De Jean, comme le général Catroux, ensuite Georges Bidault même, qui ont accepté donc de faire tampon. Et du côté américain, et du côté américain aussi, vous en avez eu. Vous avez eu Wynand, l'ambassadeur, de l'amiral Stark, vous avez Harry Hopkins, le bras droit de Roosevelt, et puis du côté anglais, vous avez Anthony Eden, vous avez Macmillan, vous avez Duff Cooper, et sans l'intervention de tous ces amortisseurs, eh bien vous auriez une rupture dès 1941, ça n'aurait pas traîné.
Alors cela dit, après cette visite de Gaulle aux États-Unis en 1944, tout n'est pas fini, les rapports quand même vont rester assez tendus, oui. Et notamment à propos de la conférence qui doit régler le sort de l'Allemagne après une victoire qui n'est plus qui devient imminente. Hein. On est en février 44, on est à Yalta, et qu'est-ce qu'on voit à Yalta? On voit évidemment Roosevelt, on voit évidemment Staline qui est l'autre puisque Yalta c'est en Crimée, et Churchill. Mais il n'y a pas le général de Gaulle qui évidemment est très mécontent. Écoutez-le répondre justement, enfin écoutez-le réagir à cette conférence de Yalta.
La conférence de Crimée s'est tenue à Yalta. Le maréchal Staline vient rejoindre ses hôtes. Et voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre.
Nos principaux amis n'ont pas encore discerné la nécessité de traiter avec nous des affaires essentielles de la Terre de la même façon qu'ils en traitent entre eux. Mais il apparaît déjà que le monde n'a rien à gagner à cette façon de procéder. Nous avons, quant à nous, toujours pensé et toujours dit qu'il n'y aura de règlement valable qu'en présence et avec le concours de la France.
Et c'était donc le général de Gaulle réagissant à l'absence de la France à Yalta. Il est manifestement assez mécontent. Est-ce que quand même on pouvait sérieusement songer à la présence de la France qui avait pesé quand même moins lourd pendant la guerre que les États-Unis, l'URSS et même la Grande-Bretagne?
Staline ne le souhaitait pas, Roosevelt ne le souhaitait pas, et il faut bien reconnaître que Churchill n'y tenait pas non plus parce qu'ils avaient peur que ça ruine la conférence tout simplement. Il allait s'opposer à tout ce qu'on allait faire, et donc tout le monde s'était à peu près entendu pour l'écarter. Ceci dit, les Anglais, Churchill et Eden, ont bataillé ferme pour le général, pour qu'on lui fasse une place dans le monde d'après-guerre, et ils ont même fini par obtenir effectivement à la fois que la France puisse participer à l'occupation de l'Allemagne, qu'elle ait un siège à la commission de contrôle, quel siège à l'Organisation des Nations Unies comme puissance invitante, ça faisait beaucoup quand même.
Ça prouve que c'était quand même payant, cette attitude du général de Gaulle pendant la guerre. Il faut rappeler que Roosevelt est mort le 12 avril, donc avant la fin de la guerre. De Gaulle d'ailleurs lui a rendu hommage à ce moment-là, après cette querelle qui a duré longtemps. Mais que serait devenue la France si, de ce bras de fer, s'il n'y a pas eu de Gaulle pendant ce bras de fer, si par exemple il y avait eu le général Giraud?
Il y aurait très certainement eu une guerre civile, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une occupation américaine, les communistes auraient appelé à la résistance contre l'occupation américaine, et ça aurait été dramatique. Il serait passé à peu près ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire une guerre civile assez longue.
Tant que ça.
Très probablement, oui.
Et on a l'impression, quand on entend ce que l'on vient d'entendre de Gaulle après Yalta, on a l'impression l'impression qu'au fond, le langage n'a pas tellement changé, que les rapports entre les États-Unis et la France, dans un contexte totalement différent, bien entendu, mais sont toujours restés un peu les mêmes. Au fond, c'est « je t'aime, moi non plus ».
Oui, et puis c'est de la part des États-Unis, la France, finalement, c'est tout petit, ça ne compte pas, etc. Quand il y a eu De Gaulle, ils ont fini par être obligés d'en tenir compte, parce que De Gaulle, c'était, ça faisait plus grand que la France. Mais en dehors de cela, finalement, les États-Unis, depuis qu'ils sont une grande puissance, et ils s'en sont aperçus uniquement pendant la Seconde Guerre mondiale et par la suite, eh bien, ils ont tendance à considérer que la France n'a pas d'importance. Quand de temps en temps, ils sont rappelés à l'ordre, eh bien, ils sont tous surpris, et ça donne un petit peu ce qu'on voit jusqu'à maintenant.
Ça a été le cas, il faut le rappeler, à l'époque, après le retour du général de Gaulle au pouvoir, quand la France, par exemple, a quitté l'OTAN, et c'est à plusieurs reprises opposé à la politique américaine, je pense au discours de Phnom Penh contre la guerre américaine au Vietnam. C'était le cas aussi pendant la guerre en Irak. On a l'impression, au fond, que c'est toujours un peu la même chose. À ceci près, quand même, c'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une grande impopularité de la France aux États-Unis, dans l'opinion publique américaine, ce qui n'était pas le cas du temps du général de Gaulle. On l'a vu quand les Américains accueillaient chaleureusement de Gaulle à New York.
C'est tout à fait vrai, mais même maintenant, le peuple américain est très versatile et ça peut changer pratiquement du jour au lendemain. Ça, c'est pas, ils ont tout à fait l'habitude, de même qu'ils oscillent constamment entre l'interventionnisme et l'isolationnisme. Eh bien, il y a des modes anti-françaises, comme il y a des modes anti-allemandes, des modes anti-japonaises. Ça passe très vite, en fait.
Que pensait réellement de Gaulle, de Roosevelt? Et on a cité, j'ai cité au début, vous le citez dans votre livre, c'est un fou, disait de Gaulle, de Roosevelt.
Je crois que c'est l'expression la plus forte. Quand de Gaulle était en colère, il insultait tout le monde. Il faut bien voir qu'il a très peu insulté Roosevelt. Il a surtout insulté son entourage, hein, des gens comme Cordell Hull, Sumner Wells, etc. C'était sa bête noire. Et il avait une très grande admiration pour Roosevelt parce que c'était l'homme du New Deal, parce qu'il a préparé son pays à la guerre et parce qu'il a fait tout ça en étant paralysé des deux jambes. Et le général de Gaulle ne s'en sentait pas capable.
Merci en tout cas, François Kersey, de nous avoir rappelé les rapports entre les deux hommes, que l'on retrouve aussi de manière beaucoup plus complète dans votre livre, dont je recommande la lecture, De Gaulle et Roosevelt, le duel au sommet, un livre publié chez Perrin. Vous êtes également l'auteur de De Gaulle et Churchill, toujours chez Perrin, et de Winston Churchill, Le pouvoir de l'imagination, publié chez Talendier. Vous avez pu entendre un extrait d'une archive pâtée de 1945, disponible en vidéo des éditions Montparnasse, collection Le Journal de votre année. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à tous ceux qui sont derrière la vitre. Patrick Henry, Sophie Moreno, Claire Destacan, Claire Tesser, Florence Buisset, bien sûr, la réalisatrice Anne Kobilac.